Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et TikTok. On est ensemble partout. Life Radio 107.7, comme tu l'entends. Life Matin, interview.
Mesdames et messieurs, vous êtes bien dans le Life Matin sur Life Radio. La fréquence, vous la connaissez, c'est la 107.7 FM. Aujourd'hui, justement, nous parlons de la lutte contre le blanchiment de capitaux et nous faisons justement référence aux GAFI qui assistent la Côte d'Ivoire à propos. Alors, pour une question de contextualisation, je vais donc planter le décor. Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le groupe d'action financière, donc le GAFI, à réévaluer la solidité des systèmes financiers du continent africain. Pour la première réunion plénière, sous la présidente de la Mexicaine Elisa de Anda Madrazo, en poste depuis juillet 2024, le GAFI a ajouté 4 nouveaux pays, dont 3 africains, au nombre desquels se retrouve la Côte d'Ivoire. Ainsi, notre pays vient de rejoindre la liste des juridictions sous surveillance renforcée du groupe d'action financière, communément appelé liste grise. L'annonce a été faite lors des résultats de la plénière de l'organisme tenue du 23 au 25 octobre dernier. La présence de notre pays sur cette liste dénote de lacunes stratégiques identifiées dans son régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'organisation souligne toutefois que l'État ivoirien s'est engagé à résoudre ces lacunes dans les délais convenus dans le cadre d'une surveillance accrue du GAFI. Quelles sont les implications de la présence de la Côte d'Ivoire sur la liste grise du GAFI pour son économie? Quelles mesures concrètes le gouvernement ivoirien a-t-il prévu de mettre en place pour remédier aux lacunes identifiées par le GAFI? Comment la Côte d'Ivoire peut-elle renforcer ses capacités institutionnelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme? Quelles sont les conséquences pour les institutions financières et les entreprises opérant en Côte d'Ivoire suite à cette décision du GAFI? Autant de questions que nous allons aborder au cœur de nos échanges, mais bien avant d'approfondir nos questions, Emma, est-ce que tu pourrais nous donner un aperçu, mais de façon très approfondie, du GAFI et de son rôle?
Bien sûr, Daniel, le GAFI ou Groupe d'Action Financière est un organisme intergouvernemental fondé en 1989. Son objectif principal est de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et d'autres menaces à l'intégrité du système financier international.
Jonathan?
Oui, exactement. Le GAFI élabore des normes et promeut des mesures pour lutter contre ces problèmes. Il évalue également les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des pays membres pour s'assurer qu'ils respectent ces recommandations.
Est-ce qu'on peut avoir des informations sur les pays membres, Emma?
En ce moment, le GAFI compte 39 membres, y compris des pays et des organisations régionales. Ces membres s'engagent à mettre en œuvre des mesures efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI émet également des listes, comme la liste grise, la liste noire, pour identifier les pays qui ont des lacunes dans leur système de lutte contre le blanchiment de capitaux et même le financement du terrorisme.
Oui, la liste grise, par exemple, inclut des pays sous surveillance renforcée, tandis que la liste noire comprend ceux qui sont considérés comme des non-coopérants. Cela a des implications sérieuses sur leur réputation et leur économie.
Alors, quelqu'un parlait de recommandations, qu'en est-il, Emma?
Le GAFI a émis 40 recommandations qui servent de base aux mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces recommandations couvrent divers aspects comme l'évaluation des risques, la réglementation des institutions financières et la coopération internationale.
Daniel, Emma, il est important de noter que le GAFI ne se contente pas de surveiller. Il aide également les pays à développer leurs capacités en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ce qui est crucial pour les pays en développement comme la Côte d'Ivoire.
Merci à tous les deux pour ces précisions. Cela nous donne une bonne base pour discuter des enjeux spécifiques à la Côte d'Ivoire. Alors maintenant que nous avons une meilleure compréhension de cette organisation et de son fonctionnement, pensons-nous donc sur les implications de la présence de la Côte d'Ivoire sur la liste grise. Et pour en parler justement, nous sommes en compagnie de Monsieur Marc Niaoré. Il est expert consultant et évaluateur de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Bonjour Monsieur Niaoré.
Bonjour messieurs, bonjour madame.
C'est un réel plaisir de vous avoir en studio pour l'émission, c'est le Live Matin et la fréquence c'est la 107.7 FM. Vous avez juste à vos côtés, à ma gauche il y a Jonathan Nibou et juste à droite bonjour, Emmanuel Didier.
Enchanté. Enchanté.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer mais brièvement l'importance des évaluations du GAFI pour les pays membres, en particulier pour la Côte d'Ivoire?
D'accord, bien avant je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation et pour l'opportunité que vous nous donnez de nous prononcer sur ces sujets d'actualité actuellement.
C'est nous.
Je salue aussi le fait que le plateau soit genré parce que les femmes
ont
joué dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et les flux financiers illicites. Ah bon? C'est très important.
D'accord.
Parce
d'accord.
qu'elles sont utilisées à plusieurs fins. On en débattra et tout à l'heure. Les évaluations mutuelles. Les évaluations mutuelles, pour parler comme les Ivoiriens, c'est comme une composition, d'accord? On vous met à l'école, d'accord? Et puis, à un moment donné, on dit, bon, tout ce que vous avez appris comme leçon, là,
d'accord.
Venez, on va vous évaluer.
Comme un
si
examen.
Vous avez assimilé, est-ce que vous êtes capable de rendre ce que vous avez assimilé?
D'accord.
C'est aussi simple que ça. Une évaluation mutuelle vient pour, comment on dit ça, évaluer, peser, peser, vos dispositifs, votre réglementation, vos dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux,
okay.
de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive.
Alors, récemment, on a pu voir dans quelques journaux et sur les réseaux sociaux que la Côte d'Ivoire a été critiquée pour des insuffisances dans sa lutte contre le blanchiment d'argent. Pourtant, comme l'a mentionné le quotidien Fraternité Matin le 30 octobre dernier, la Côte d'Ivoire reste debout malgré tout. Alors, quel est l'état des lieux réel? Que dit le rapport du GAFI sur la Côte d'Ivoire?
Bien avant ça, il faut pas. Et ça, c'est une adresse à l'endroit des médias et de la presse. Vous avez aussi votre rôle à jouer dans la lutte contre le blanchiment.
Justement, c'est pour ça qu'on vous a invité.
Voilà, c'est pourquoi j'ai été aussi heureux de m'empresser de venir à temps. Et donc, je salue l'opportunité. L'état des lieux, bien avant l'état des lieux, il faut comprendre que quand vous décidez d'adhérer à une initiative, vous acceptez de vous soumettre aux conditionnalités qui vous permettre d'être pointu, d'être au niveau. Et donc, depuis que la Côte d'Ivoire, pour nous qui travaillons sur ces questions-là, la Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts.
D'accord.
Parce qu'à la fin de la crise post-électorale, notre pays s'est engagé dans une vaste réforme. Des réformes prioritaires en matière de gouvernance, c'est ce qui a donné tout ce que vous avez vu jusqu'à aujourd'hui.
Okay.
En 2012, on a fait l'évaluation nationale des risques de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a évalué tout son système, comprendre, connaître les secteurs dans lesquels il y a des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, à l'effet d'apporter des correctifs dans ces secteurs-là. Donc, on est dans la droite ligne.
D'accord.
Ce sur quoi je voulais chuter, c'est que c'est parce qu'on est sur la liste grise qu'aujourd'hui, tout le monde s'empresse de comprendre. Mais il faut saluer la Côte d'Ivoire dans tous ses efforts. Nous avons fait beaucoup d'efforts. Nous avons une stratégie nationale. Non, il y a beaucoup d'efforts. On va ensemble éplucher tous les dispositifs qui ont été mis.
Tout à fait.
Et c'est bon d'être sur la liste grise parce qu'on dit vigilance renforcée. Est-ce que la composition que tu as faite, là où tu as eu des lacunes, là, comment on fait pour renforcer?
D'accord.
S'il te faut faire des coups de renforcement privé, on t'accompagne.
Au moins, on n'est pas sur la liste noire.
Non, le plus important, c'est de ne pas y être.
Emma?
Alors, comment la Côte d'Ivoire peut-elle aujourd'hui bénéficier des nouvelles propositions de révision des normes du GAFI sur l'inclusion financière?
En matière d'inclusion financière, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, les rapports sont volumineux. Hein, sinon, en matière d'inclusion financière, la Côte d'Ivoire a déjà un dispositif. Il y a un dispositif national, il y a un dispositif régional, il y a un dispositif mondial. Et donc, en matière d'inclusion financière, le plus important pour la Côte d'Ivoire, c'est l'identification. C'est l'identification des détenteurs de comptes.
Tout à fait.
L'identification mobile money, l'identification, comment on dit ça, sur les puces. Vous avez vu qu'aujourd'hui, pour détenir un numéro, il faut être identifié. Il faut s'identifier avec sa pièce d'identité. Donc, le premier pas, ça fait partie de ce qu'on appelle les KYC, Know Your Customer, savoir avec qui vous interagissez.
D'accord.
Donc, quand vous êtes identifié déjà, ça nous permet de faire un profiling, de vous profiler, de connaître votre situation de risque pour pouvoir mieux apporter les réponses. En matière d'inclusion financière, Nous promouvons l'inclusion financière, mm-hmm. mais il faut aussi mettre en place des dispositifs
des balises.
Que l'inclusion financière mm-hmm. ne soit pas utilisée à des fins de financement du terrorisme.
D'accord.
Je dis une chose. Vous êtes M. Kodjo, vous avez 3 numéros Mobile Money, vous avez 3 comptes Mobile Money. Mm-hmm. Les comptes sont bien entendu plafonnés, mm-hmm. mais vous pouvez, comment on appelle ça, acheter une puce qui est pré-identifiée
c'est
au
vrai.
Nom de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mm. C'est ça qui constitue les vulnérabilités en matière de blanchiment des capitaux. Parce
D'accord.
qu'il est pré-identifié. Est-ce que la personne dont on a utilisé l'identité pour pré-identifier est vivante?
Mm.
Est-ce qu'elle est décédée?
Mm-hmm.
Est-ce qu'elle sait que son identité a été déjà utilisée pour ainsi mm-hmm. de suite, ainsi mm-hmm. de suite? C'est pour ça, en matière de blanchiment des capitaux, il y a la notion de bénéficiaire effectif.
D'accord.
À qui bénéficie la situation dans laquelle on va se trouver?
Okay.
Quand on va commettre l'infraction, à qui va bénéficier, pour parler comme les Ivoiriens, qui va d'abord finalement
qui va manger.
Voilà.
Oui. Jonathan.
Alors, quels sont les principaux risques de financement illicite auxquels notre pays, la Côte d'Ivoire, est confronté actuellement selon les dernières lignes directrices pardon, du GAFI?
D'accord. Notre évaluation nationale des risques, que je salue d'ailleurs, mmh. a identifié plusieurs typologies mmh. du blanchiment des capitaux. Aujourd'hui, d'après le dernier rapport de juin 2023, mmh. dans les conclusions, le premier risque de...
Rapprochez-vous légèrement du micro, s'il vous plaît.
Vous aide rapidement. Voilà.
Merci.
Voilà.
Le premier risque, mmh. le premier risque, c'est la corruption.
Mmh. Okay.
Ensuite, le secteur immobilier. La criminalité phonique,
mm-hmm.
voilà, et les crypto-actifs, ainsi de suite. Sur les crypto-actifs, on n'a pas encore de législation. Mais mm-hmm. voyez-vous, on ne peut pas demander à un enfant qui est né il y a 2 jours
mm-hmm.
de courir comme M. Kodjo qui a 40 ans, 50 ans. Ils n'ont pas les mêmes capacités. Voilà, ces mm-hmm. pays qui mettent en place tous ces dispositifs-là mm-hmm. doivent tenir compte du contexte dans lequel nous sommes.
D'accord.
Là-bas, ils ont des dispositifs déjà mis en place. Ils ont des cadres déjà bien définis. Mmh. Nous essayons de nous mettre à niveau. Et donc, pour nous mettre à niveau, nous essayons de nous mettre à niveau en même temps qu'en n'ayant pas tout ce qu'ils ont pour être à niveau.
Alors, justement, vous avez parlé de corruption. En termes d'état des lieux en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui est fait? Comment est-ce que vous jugez les actions menées par le gouvernement?
Les actions menées par le gouvernement sont salutaires. Quand vous regardez le dispositif, mmh. depuis la loi sur les infractions, sur la corruption, la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la 660, jusqu'à aujourd'hui, il mmh. y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu les processus de dématérialisation et de modernisation.
Mmh.
Voilà. Parce que c'est la corruption, ça commence quand nous deux, on se regarde. Même si M. Kodjo fait enfer, faux scientier, il est midi. Il y a un langage de la corruption.
Tout commence
donc,
par là.
Voilà, donc il te regarde comme ça, c'est... Bon, j'ai l'habitude de le dire, pourri, c'est... la corruption, c'est quelque chose de spirituel.
Mm-hmm.
Des fois, même tu es assis, les gens sont en train de commettre des actes de corruption et toi qui es à côté, tu ne sais pas.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, l'autre dispositif a beaucoup évolué.
Mm-hmm.
En plus de la loi sur la corruption, il y a la loi sur le blanchiment des capitaux, il y a la loi qui met en place des dispositifs tels que... le pôle pénal économique et financier, il y a eu la Centif
mmh.
et le comité de coordination des politiques de lutte contre le blanchiment des capitaux. Pôle pénal économique et financier, aujourd'hui, une agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels, où ceux mmh. qui se rendront coupables d'activités illicites, mmh. il y a une agence qui est chargée
oui.
de gérer ces avoirs-là, de les ramener dans le patrimoine de l'État. Mais pour qu'on y arrive,
mmh.
pour qu'il y ait de l'impact, il faut dénoncer la corruption.
Il faut dénoncer la corruption.
Et aujourd'hui, je me réjouis d'une loi sur les dénonciateurs, les victimes, les experts. Il faut dénoncer la corruption.
Sur la protection de ceux-là qui
voilà.
dénoncent.
Il faut les protéger. Maintenant, comment est-ce qu'on met en place le dispositif de protection? Parce que
mm-hmm.
dénoncer quelqu'un qui commet de la corruption, après, il ne faut pas qu'il y ait de représailles.
En effet.
Il faut que l'État puisse vous protéger.
En effet.
Mais mieux, je profite de votre antenne. Il faut que l'État aussi puisse penser à des mesures incitatives.
Mmh.
Si j'ai dénoncé la corruption, que le réseau a été démantelé,
mmh.
qu'ils ont récupéré le jeton, comme on dit en Côte d'Ivoire.
Faut qu'on vous donne une partie.
Voilà, il faut me motiver quand j'ai dénoncé la corruption. Sous d'autres yeux,
ça se fait.
Je prends le cas du Japon, par mmh. exemple. Comme la police, il n'y a pas beaucoup de caméras partout,
mmh.
certains automobilistes sont chargés d'identifier les infractions au code de la route et d'aller les dénoncer au commissariat. Et à la fin du mois, tu reçois ton intéressement. Donc, il faut encourager la dénonciation de la corruption.
D'accord.
D'accord. Alors, c'est bien ce que vous dites, mais en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en termes de enfin, c'est quoi les mécanismes qui sont mis en place pour s'assurer que la Côte d'Ivoire suit les recommandations du groupe d'action financière, du GAFI?
D'accord. Toutes les institutions en charge de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme travaillent de façon collégiale pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et quel est le dispositif qui est mis en place? Mais il y a des revues. Il y a des revues, il y a la collaboration. Il y a la collaboration. Nous sommes membres de deux institutions. L'une régionale, qui est le DIABA, le groupe intergouvernemental d'action de lutte contre le blanchiment d'argent, le DIABA au niveau de la CDAO.
D'accord.
Et au niveau mondial, nous sommes aussi membres du GAFI. Il y a Quand nous sommes en train de tenir compte des recommandations pour minimiser les gaps, minimiser les gaps qui ont été identifiés, à chaque fois qu'on fait un pas, les autorités vont. Ah, voilà ce que nous avons fait sur telle recommandation, par exemple.
Okay.
Voilà, nous avons mis en place tel dispositif. Est-ce que ça permet? Parce que l'évaluation tient compte de deux choses.
D'accord.
Conformité réglementaire et l'efficacité du dispositif.
Okay.
Vous pouvez avoir toutes les belles lois. Si le dispositif n'est pas efficace, il n'est pas dissuasif. Aujourd'hui, si M. Kodjo, en allant à la maison, il reçoit un appel du procureur du pôle pénal économique et financier, ce n'est pas sûr que vous ayez le sommeil. C'est ça, la mise en place du dispositif.
Okay.
Donc, c'est ce qu'il faut renforcer.
D'accord.
Il faut renforcer. La Côte d'Ivoire fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. En tout cas, c'est à saluer. Mais comme l'horizon, on ne peut pas toucher l'horizon, on continue de travailler.
On continue de travailler.
Oui, monsieur Niaoré, comment le GAFI s'assure-t-il que les exigences imposées au pays ne restreignent pas les activités des ONG?
Pour s'assurer que les recommandations et les exigences ne restreignent pas les activités des ONG, le GAFI a élaboré une recommandation spéciale pour les ONG. C'est la recommandation 8.
D'accord.
Il s'agit pour les ONG de se mettre en conformité. Se mettre en conformité, c'est déclarer ses comptes, avoir une autorité de régulation dans le pays qui supervise. Ici, notre autorité de régulation, c'est la Direction générale de l'administration du territoire, celle qui chapeaute, qui gère toutes les ONG, tout ça. Et il faut mettre à la disposition des ONG un registre, parce que les ONG reçoivent des fonds de l'étranger, d'accord ? Est-ce que ces fonds-là sont intègres? Est-ce que la source de ces fonds est intègre? Est-ce que, arrivés dans le pays, ces fonds ne seront pas utilisés à d'autres fins? C'est pourquoi, dans les recommandations du GAFI, la recommandation 8 parle des organismes à but non lucratif. Souvent, une fois, ces organisations-là, ces organismes sont utilisés à des fins de blanchiment ou à des financements du terrorisme. Ils peuvent même payer des voyages pour des terroristes sous le couvert fallacieux de formation et de ceci, de cela.
Ah bon.
Je prends M. Nebou, non?
C'est ça. Oui, c'est bien ça.
M. Oui. Nebou, je sais que c'est un... Je ne souhaite pas que vous le soyez, le terroriste. Moi, j'ai mon ONG, je collabore avec une organisation terroriste et des financiers terroristes. Monsieur Niaoré, est-ce que par le biais de votre organisation, on peut payer un voyage dans un pays à haut risque pour que... Donc, moi, je fais les papiers en tant que membre de mon ONG. Je dis à un tel, il part dans tel pays pour faire une formation dans sur telle thématique,
pour
tel nombre de temps, tel nombre de temps. C'est ce que les papiers disent.
Alors qu'en réalité...
Voilà, avec la confiance que l'État de Côte d'Ivoire me fait, je trahis cette confiance-là. Et il va, il fait sa formation antiterroriste et il revient où planter le glaive dans le sein de l'État. Donc, c'est pour tout ça, c'est toutes ces choses-là que l'État prend ses dispositions. Pour ne pas que les ONG servent de ventre mou de la lutte contre le blanchiment des capitaux.
D'accord.
Ça peut être des formations, ça peut être aussi du blanchiment des capitaux. Des gens peuvent détourner beaucoup de politiques. Si vous remarquez, on ne cite pas les contemporains, vous remarquez, chaque politique a créé une ONG, une fondation. C'est pour tout ça là.
D'accord. Voilà. Je tiens à rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent nous appeler à partir de 8h30 au 27 225 49 880, 27 280 49 880. Vos opinions nous intéressent en ce qui concerne justement la lutte contre le blanchiment de capitaux. Emma,
Alors, quel impact la suspension de la Russie pourrait-elle avoir sur les discussions et les décisions du GAFI et comment cela pourrait-il influencer les pays comme la Côte d'Ivoire ?
La suspension de la Russie en tant que membre du GAFI, quand on vous suspend, on vous blacklist, vous pouvez vous recroqueviller alors que la lutte contre le blanchiment de capitaux a besoin de coopération internationale.
D'accord.
Et donc la Russie peut refuser de coopérer, elle peut renforcer son isolement financier, elle peut restreindre l'accès au flux des capitaux illicites, vous voyez. Garder les informations, ne pas collaborer et puis... Si vous n'avez pas été, comment on dit ça, vous m'avez mis à l'écart, s'il y a quelqu'un qui a commis une infraction dans un pays tiers qui vient dans ma juridiction, je ne vais pas faire la coopération judiciaire.
Est-ce que vous donnez l'impression de ne pas être très à l'aise avec la suspension de la Russie ?
La question de ne pas quoi ?
De ne pas être, vous donnez l'impression de ne pas être très à l'aise avec la question de la suspension de la Russie.
C'est une impression. C'est une impression.
D'accord.
Bon, la suspension de la Russie, vous savez, c'est... Chacun apprécie diversement. Okay. Chacun apprécie diversement. Comment on dit ça? Ils ont évoqué plusieurs raisons qui sont propres au GAFI. Je ne participe pas au plénière du GAFI, mais avec du recul, on apprécie. Parce que la coopération internationale peut être mise à mal. La Russie, c'est un grand pays, c'est un gros pays qui interagit avec plusieurs pays, plusieurs juridictions à haut risque. Si à travers la Russie, on peut infiltrer ces pays, ces juridictions à haut risque pour avoir des informations et que cette seule porte-là se ferme, vous voyez un peu ce que ça fait. Ça peut être sans ses avantages et ses inconvénients. Ceux qui sont dans le secret de Dieu savent pourquoi ils sont...
8h30, mesdames et messieurs, vous pouvez donc nous appeler. Le téléphone est ouvert. Vous pouvez nous appeler au 27 225 49 880 pour prendre part justement à cette émission. Comment il s'appelle ? Emma posait déjà la question de savoir comment est-ce que la Russie, la suspension de la Russie pourrait influencer des pays comme la Côte d'Ivoire. Jonathan, tu veux ajouter quelque chose ?
Oui, en fait, ma question, Monsieur Niaoué, comment la Côte d'Ivoire collabore-t-elle avec d'autres pays de la région pour renforcer la conformité aux normes du GAFI ?
D'accord. La Côte d'Ivoire a plusieurs moyens de collaboration. Nous sommes dans un espace... Lui et moi, déjà, d'accord. Donc, au niveau de la CEDEAO, il y a la collaboration interétatique parce que le renseignement financier, c'est la clé de voûte de la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Oui.
Si on ne partage pas les renseignements, c'est difficile. Y peut avoir commis une infraction à Abidjan et puis aller se cacher dans une capitale tierce voisine. Voilà, s'il n'y a pas de coopération, on ne peut pas mettre en œuvre la coopération judiciaire pour pouvoir l'extrader pour qu'il réponde de ses actes. S'il n'y a pas de coopération, on ne peut pas recouvrer les avoirs criminels. Et donc, la criminalité transfrontalière a besoin que les gens puissent échanger, puissent communiquer, partager les renseignements financiers et mieux, se déplacer pour aller mener des actions en commun. Mener des actions en commun pour pouvoir minimiser l'impact.
Oui.
L'impact du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.
Effectivement.
Alors, les femmes au GAFI, vous en parliez à l'entame de notre échange. Quels sont justement les objectifs de l'initiative Les Femmes au GAFI et le réseau mondial ? Et comment cela pourrait-il influencer la représentation et même la participation des femmes en Côte d'Ivoire ?
Les femmes au GAFI, honnêtement, je ne connais pas l'initiative.
D'accord.
Ce que je sais, c'est l'implication des femmes dans l'amélioration de la gouvernance. Les femmes, ce n'est pas pour vous stigmatiser, ni pour stigmatiser celles qui sont à l'écoute. Les femmes sont souvent utilisées comme mules pour transporter des valises, pour transporter des fonds. Vous savez que nous sommes dans un espace CEDEAO, la libre circulation des biens et des personnes. On peut vous donner des fonds, beaucoup de fonds, et vous allez traverser la frontière avec. Comment est-ce qu'on fait comprendre à ces femmes-là, à toutes les femmes, que contribuer à transporter ces fonds, cet or et tout ça que vous portez sur vous, parce qu'il y a plusieurs typologies, voilà. Donc comment est-ce que vous devez contribuer à minimiser, à éliminer ces risques-là, parce que les femmes dans leurs activités commerciales peuvent blanchir des capitaux, peuvent financer du terrorisme à travers le commerce, à travers les déplacements, les voyages, les... Tous les secteurs peuvent servir à blanchir les capitaux. Maintenant, comment les femmes peuvent lutter contre la lutte. Elles doivent être sensibilisées. Elles doivent prendre conscience du rôle qu'elles jouent. Parce que quand le terrorisme frappe, il n'y a pas de distinction. Mm-hmm. Il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des hommes, il y a tout le monde dedans. Et pour aller au-delà, c'est une responsabilité nationale. Mm-hmm. Chacun à son niveau doit s'engager dans la lutte. Hommes, femmes, enfants, jeunes. Et faire de sorte que nos systèmes soient intègres. Pourquoi moi je me suis engagé dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme? Quand vous regardez un peu la réalité ivoirienne,
L'environnement.
Si quelqu'un vous finance avec l'argent de la drogue, il faut qu'il trouve quelqu'un pour consommer la drogue pour qu'il y ait de l'argent.
Oui.
Ça peut être votre enfant. Mm-hmm. Ça peut être l'enfant de M. Kodjo. Ça peut être l'enfant de M. Niaoré. Mm-hmm. S'il vous finance avec l'argent de la traite des êtres humains ou de la prostitution, ça peut être mon enfant.
Oui.
Voilà. Donc, je me protège en m'engageant dans cette lutte-là. Voilà. Peut-être que le véhicule dans lequel je monte, c'est un véhicule piégé qui a été financé à partir de l'argent que j'ai donné à mon fils. Il a pris, il est allé acheter de la drogue pour consommer. Mm-hmm. Vous voyez un peu, mm-hmm. c'est une mauvaise économie circulaire qui nous impacte, nous tous. Les femmes, vous regardez des fois, elles transportent de la drogue, elles transportent des produits cosmétiques. Mm.
Voilà. Tout peut passer
tout
par elles.
C'est tout ça.
Dans d'autres pays, des partenariats publics-privés sont mis en place pour lutter contre le blanchiment de capitaux. Mm-hmm. Cette approche pourrait-elle être efficace ici en Côte d'Ivoire?
Bien sûr.
Comment est-ce qu'on pourrait procéder? Il faut
partager les bonnes pratiques. Mm-hmm. Il y a quelques années, avec notre organisation, on travaillait sur la réforme du secteur de la sécurité, mais comment est-ce que le genre peut être utilisé pour réformer la sécurité? Mmh. Comment est-ce que le genre peut être utilisé pour améliorer les politiques de lutte contre le blanchiment des capitaux? Aujourd'hui, vous vous intéressez à la question, nous nous en réjouissons, mais combien parmi vous s'intéressent à la question? Mmh. Et le drame, des fois vous êtes là, dit l'argent n'a pas d'odeur, c'est du mensonge. L'argent a une odeur.
Oui.
Et ça, je le dis, quand un billet sort de chez la vendeuse de poissons, vous savez, quand vous touchez le billet,
quand
vous le sentez, si ça vient d'un boucher, d'un charbonnier, vous savez,
oui.
Et l'argent n'a pas d'odeur. Il faut connaître la source de l'argent.
Mm.
Pour ne pas que demain, vous disiez, je ne savais pas. Parce que dans le système actuel, vous aurez dû savoir. Mm. Vous avez un devoir de vigilance,
oui.
une obligation de vigilance, la due diligence. Je rencontre M. Kodjo devant l'église. Ah, Bishop, comme tu viens de... On m'appelle Bishop des fois. Hein. Comme tu viens de l'église, voilà 2 millions. Il faut... C'est ma dîme. Le Kodjo, c'est un bon disciple. D'où sort cet argent? Voilà, c'est pourquoi on demande à tout le monde de faire la mise en conformité,
oui.
y compris les associations culturelles. Voilà.
Vous pouvez nous appeler, mesdames et messieurs, au 27 225 49 880. Nous parlons donc de la lutte contre le blanchiment de capitaux avec M. Marc Niaoré, évaluateur des politiques de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Alors, comment dire ça ? La session plénière s'est tenue, la session plénière s'est tenue du 23 au 25 octobre. Je vais parler de la session plénière, donc, du groupe d'action financière, donc, du GAFI. Quelles sont les prochaines étapes pour la Côte d'Ivoire suite à cette plénière et quels sont les défis à relever? Emma, tu veux, dire quelque chose là-dessus?
C'est un sujet assez crucial, Daniel. Être sur cette liste a des répercussions significatives, notamment sur la confiance des investisseurs et même la perception du pays sur la scène internationale.
Jonathan?
Oui, absolument. Cela peut entraîner une augmentation des coûts de financement pour le gouvernement et les entreprises, car les prêteurs peuvent considérer la Côte d'Ivoire comme un pays à risque plus élevé.
Alors, on a la chance d'avoir un expert en la matière, justement. Ça serait bien d'entendre ce qu'il a dit sur les défis à relever après cette session plénière du GAFI.
Merci. Plusieurs défis sont à relever, mais ce qui est bon, les acquis déjà de cette plénière, c'est qu'on vient de faire un diagnostic. On dit, vous souffrez de tel mal.
Okay.
Quand vous connaissez votre mal, ou apportez les correctifs, c'est plus facile. C'est
en fonction effet.
Du mal qu'on prescrit, les produits à consommer pour que vous puissiez recouvrer la santé. La Côte d'Ivoire, c'est les 14 points sur lesquels elle doit améliorer sa situation. Donc, pour moi, ce n'est pas dramatique.
On peut revenir rapidement sur quelques points ?
Je crois il y a sur les points le renseignement, les poursuites et tout ça. Donc, quand on sait les points, quand on sait ces points-là, on peut rapidement les corriger. Il faut dire que, par exemple, au niveau des poursuites, j'ai estimé que les poursuites ne sont pas suffisantes, parfois que les choses sont lentes et tout ça, mais un sage a dit, on ne sort pas de la guerre comme si on sortait d'une boîte de nuit. La Côte d'Ivoire sort d'une longue période de crise. De 2000, depuis la fin de la crise jusqu'à aujourd'hui, notre dispositif s'est suffisamment renforcé. Il peut ne pas être parfait, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Mais le fait qu'on ait identifié nos faiblesses nous permettra de corriger ces faiblesses-là, peut-être même avant même le délai. Parce que la volonté politique y est. C'est quand il n'y a pas de volonté politique qu'il y a problème. La volonté politique y est. Nous avons commencé à engager beaucoup de réformes. Donc, pour corriger ces gaps-là, ça sera plus aisé.
Être sur la liste grise a forcément des répercussions significatives, notamment sur la confiance des investisseurs et la perception du pays sur la scène internationale. Moi, je pense que c'est quelque chose qui soulève des questions importantes sur la stabilité économique du pays. Et j'aimerais bien demander à vous trois ici présents, ça pourrait être quoi les conséquences directes sur les investissements étrangers et les relations commerciales, Monsieur Niaoré?
Merci, c'est vrai que l'inscription sur la liste grise a un impact réputationnel à ne pas négliger, mais ayons souvenance de ce que la Côte d'Ivoire a fait partie pendant un bon moment du classement Doing Business, le classement des pays les plus réformateurs en matière de business, qui crée un climat favorable à comment on appelle ça, au commerce et au développement d'entreprises.
Au climat des affaires.
Oui, Doing Business, fort de cela, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays sûr. La Côte d'Ivoire est sûre depuis longtemps. La preuve, vous voyez les investissements, vous voyez les entreprises qui viennent s'y installer, ainsi de suite. Ce qu'il est bon de souligner dans cela, c'est vrai que quand on dit non, liste grise, vous êtes sur la liste grise, mais le Sénégal était sur la liste grise. Cela n'a pas empêché les investisseurs d'y aller.
D'accord.
Voilà. Ça veut être sur la liste grise, ça veut dire que vous avez des gaps.
Ok.
Corrigez-les.
D'accord.
Sinon, vous êtes un bon élève. Si on prend les acquis de la Côte d'Ivoire en termes de lutte contre le blanchiment des capitaux, on n'est pas beaucoup à avoir fait ces efforts-là. Aujourd'hui, si nous sommes passés sur la liste grise, c'est parce que nous avons besoin d'améliorer encore notre dispositif, le rendre plus robuste, plus efficace. Voilà.
Alors, efficace. Nous avons un auditeur en ligne qu'on va récupérer tout à l'heure. Bonjour.
Allô. Bonjour la team.
Bonjour Monsieur Xavier.
Bonjour à l'expert.
Bonjour Monsieur Xavier.
Le Gafi aux trousses des gaffeurs. Tel pourrait être le titre du roman de ce matin.
Wow.
Bien, cela dit, je vois que le Gafi a énormément à faire. Mais avant d'arriver à ce point, j'aimerais dire une chose. Moi, avant-hier, hier, lorsque j'ai entendu le compte-rendu, le rapport final sur la Côte d'Ivoire, je vous assure, j'ai eu froid au dos. Mais la vérité, ce état de fait-là était dû au fait que je n'avais pas de notion sur ce qu'on appelait le Gafi et autres. Mais l'expert vient de m'édifier, ça me met maintenant beaucoup plus à l'aise. Comme il a dit, l'incidence est une incidence réputationnelle, c'est vrai. Alors nous, à longueur de journée, on se bat pour soigner cette réputation-là, cette image-là, qu'on veut véhiculer. Bravo à eux, courage à eux. On n'a pas dit à nous tous d'aller parler, toute la Côte d'Ivoire qui est
en effet.
Cela dit, ce que je constate, c'est que le Gafi travaille, y compris même nos États, travaille sur la base des dénonciations. Or, il se trouve que l'Ivoirien n'a pas la culture de la dénonciation. C'est un défi pour le Gafi Côte d'Ivoire. Quelle solution il trouve à cela?
C'est une question que vous posez à l'expert. Je crois qu'il
Il va y répondre. Deuxièmement, la solution trouvée, est-ce qu'elle peut nous réussir, elle peut marcher dans la mesure où, cette question, pourquoi nos décideurs prennent de haut généralement la basse classe les milieux populaires et autres. Du coup, il y a un climat de méfiance, un climat de distance entre ces deux entités-là. Mmh. Qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer cela? Merci infiniment. Bonne journée.
Merci beaucoup, M. Xavier, messager. Restez à l'écoute et c'est avec beaucoup de plaisir que notre invité vous répondra. Alors, je crois que vous avez plus ou moins souligné la solution en ce qui concerne les lanceurs d'alerte, les dénonciateurs au niveau de la corruption.
Effectivement, et il fait bien de poser la question. La dénonciation n'est pas une culture ivoirienne. Mmh. Voilà. En Côte d'Ivoire, quand vous commencez à dénoncer quelqu'un, on vous tasse les jaloux.
Ça vous le traite.
Aigri là, gawa là. Comme tu ne manges pas, je mange, tu es jaloux. Mmh. Mais qu'est-ce que tu manges?
Est-ce que tu manges bien?
Est-ce que tu manges sain? Mmh. Est-ce que ce que tu manges là, tu n'as pas carie après?
D'accord.
Voilà. On a eu en temps, non? On ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille les arachides. Mais les arachides que vous grillez là, est-ce qu'elles vous appartiennent? Mmh. Elles ne vous appartiennent pas. Donc, on n'a pas la culture de la dénonciation. On n'a pas la culture de la reddition des comptes. On n'a pas la culture de la redevabilité. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a des canaux pour pouvoir dénoncer. Il y a des numéros verts, il y a des plateformes, il y a Signalis,
ça commence à venir.
La haute autorité a suffisamment, la haute autorité pour la bonne gouvernance, que je salue au passage, a suffisamment fait de la sensibilisation pour renforcer la confiance entre les populations et les autorités de lutte contre le blanchiment des capitaux, la corruption et tout ça. Mmh. Il faut que les dénonciations, les requêtes, les plaintes soient traitées et que suite soit donnée.
Okay.
Si vous avez dénoncé, que l'enquête est menée, on vous dit que ce n'est pas le cas, il faut qu'on vous rende compte. C'est cette culture-là qui va renforcer la confiance des citoyens en ces gouvernants. Autre chose, la gouvernance, c'est aussi par l'exemple. Il faut gouverner par l'exemple.
Oui.
Vous voulez que je danse à reculons? Dansez à reculons. Vous voulez que je sois habillé, vêtu de blanc? Faites-en de même. Aujourd'hui, c'est une gouvernance par l'exemple. Les pays qu'on cite en exemple, là, ils ne sont pas nés comme ça. Hein. Mmh. Ils ont acquis cette culture-là. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on promeut comme valeur? Est-ce que, parce que M. Kodjo a l'argent, sans connaître la source de ses fonds, c'est lui qui doit être pareil partout?
Mmh.
Est-ce que, quand on voit quelqu'un en train de faire travaillement, ça ne doit pas interroger? C'est difficile d'avoir l'argent et donc gaspiller comme ça aussi. On doit se poser des questions.
Quand même.
Est-ce que... Et donc, ça pose le problème de l'éducation citoyenne.
Mm-hmm.
Problème de l'éducation citoyenne. Il ne faudrait pas qu'on voit dans la dénonciation de la délation.
Mm-hmm.
C'est différent.
Oui.
C'est différent. Je dénonce un fait pour lequel je suis au courant. Il faut que je dise ce que j'ai vu. Il ne faut pas affabuler, il ne faut pas mentir. Si vous voulez contribuer à lutter contre la corruption, vous-même, vous devez refuser des actes de corruption. Vous ne devez pas arriver dans un bureau et puis dire au gars, je suis pressé, connaissant le délai.
Ouais,
parce que ça doit commencer par nous-mêmes.
Ça doit commencer
on dit
par
le
nous-mêmes.
Délai, c'est 24 heures.
Il faut attendre 24 heures.
Faire kaba-kaba. Faire kaba-kaba, ça a son coût. Voilà. Donc, il faut que chacun prenne ses responsabilités.
D'accord, il faut que chacun prenne ses responsabilités tant au niveau des gouvernés que des gouvernants. Nous avons encore un auditeur en ligne.
Oui, la team, Xavier Messaillant.
Ah, il est revenu, monsieur Xavier
Messaillant. Oui, oui.
Très rapidement, s'il vous plaît.
L'expert vient de parler des contacts, des canaux par lesquels les uns et les autres peuvent dénoncer.
Les numéros verts.
Oui, oui. Mais comme les Ivoiriens savent que ces canaux-là existent, première question. Deuxième question, ces canaux-là, même quand tu les utilises, ça sonne en un point fini. Non seulement ça finit tes unités, même si c'est 20, les deux, ça décharge ta batterie. Pour dire quoi? Il y a un absentéisme qui règne aux alentours de ces canaux-là. Et même quand tu as le bonheur d'être pris, tu te heurtes à leur savoir-être, à leur savoir-faire. De deux sur la question, tu n'es même pas sûr même que ton dossier, ton cas sera pris en compte. À peine tu finis, les jours qui suivent, tu vois que ce que tu as dénoncé là, ça continue. À la matière, il y a plein d'actes que moi je pose parce que je suis du domaine des transports. Donc, il y a tellement d'erreurs, tellement de problèmes à ce niveau-là que chaque fois j'ai recours au numéro de signalise et autres. Mais malheureusement, on s'est de constater que les mêmes travers continuent. Donc, voilà du grand mood pour l'espère. Merci.
Merci beaucoup à M. Xavier. Mais ça, j'ai... Alors, c'est quelque chose qui peut décourager.
Oui, ça peut décourager.
Quand on a l'impression qu'on appelle et qu'on n'a pas de retour.
Oui, c'est des choses qui arrivent, ça peut arriver. Mm-hmm. Ça peut décourager. Ce que je puis dire à M. Xavier, si vous avez introduit une requête et vous n'avez pas de suite à cette requête, écrivez au président de la Haute Autorité.
D'accord.
Courrier.
OK.
Vous déposez à la Haute Autorité, c'est quelque part ici. Mm. Vous déposez. Vous gardez trace.
Mm-hmm.
Vous gardez la décharge. Pour que demain, lorsque vous dites, j'ai saisi vos services, j'ai pas eu de suite, on vous dit où est la preuve, vous présentez la preuve.
OK.
Il faut aussi, comment on appelle ça, quand les autorités sont invitées par les médias pour s'exprimer, et ça, je m'adresse à vous, hommes de médias, mm-hmm. il faut que vous puissiez collecter quelques préoccupations des populations
pour
les porter.
C'est ça.
Ça aussi, ça permet... La reddition des comptes, ça permet...
Mm-hmm.
Parce que tout ce qu'on fait là, c'est pour qui?
Mm-hmm.
C'est pour les populations.
Pour les populations.
Elles sont consommatrices des politiques publiques.
Mm-hmm.
Donc, si elles ne peuvent pas contribuer à apporter des correctifs à ces politiques publiques-là, elles ne se sentiront pas concernées.
Oui.
Aujourd'hui, on est dans de nouveaux paradigmes où la participation citoyenne doit être celle-là qui enclenche, qui accompagne, qui est partenaire de l'action publique.
Mm-hmm.
Et où la participation citoyenne, secteur public, secteur privé, société civile, citoyens, grand public, doivent travailler ensemble ou co-créer ensemble, mettre ensemble pour être responsables ensemble. Sinon, il a dit une chose qui est importante, les ressources humaines,
mm-hmm.
ce sont des thématiques qui sont nouvelles. Il faut aussi inviter ceux qui travaillent sur ces thématiques-là pour que ces personnes-là puissent promouvoir ces thématiques-là pour que les gens... s'y intéresse. Le métier de juriste conformité, il est nouveau.
Mm-hmm.
Il est nouveau. En Côte d'Ivoire, ici, ceux qui font ce que vous entendez des fois, compliance ou bien conformité, ils ne sont pas nombreux.
C'est vrai.
C'est des métiers à promouvoir. C'est des métiers à promouvoir. Parce que quand on n'a pas beaucoup de ressources humaines, on n'a pas beaucoup de ressources techniques, c'est difficile de pouvoir satisfaire aux exigences.
Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais nous sommes obligés aujourd'hui de mettre un terme à cette émission. Monsieur Niaouré, Marc Niaouré, merci, mais vraiment merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à nos questions. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes évaluateur de politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Je tiens à souligner à l'ensemble de nos auditeurs qu'à partir donc de ce que vous nous avez dit aujourd'hui, le gouvernement devra donc montrer son engagement à résoudre les lacunes identifiées. Enfin, vous avez dit qu'il y a beaucoup de choses encore. Il doit poursuivre. Il doit poursuivre donc les réformes. Cela pourrait donc inclure l'amélioration des réglementations, l'augmentation de la transparence et même la mise en œuvre de programmes de formation pour les acteurs du secteur financier. Votre mot de fin en 30 secondes, ça sera lequel?
En 30 secondes, merci à Life Radio. Merci aussi à tous ceux qui ont contribué à cette émission.
Mmh.
Et une invite. Nous sommes tous acteurs de la lutte contre la corruption.
D'accord.
Voilà. Le slogan que nous devons avoir en Côte d'Ivoire, la corruption ne passera pas par moi.
La corruption ne passera pas par moi.
Il nous faut inculquer ces valeurs-là à nos enfants à la maison, à nos enfants à l'école, partout. Refusez les actes de corruption. Quand vous vous dressez contre la corruption, vous sauvez des milliers de vies.
Mmh.
La corruption ne passera pas par moi. Emma?
Oui.
La corruption ne passera pas par moi.
Emma, il faut mettre de la conviction. Emma, il faut dire, moi citoyen, la corruption ne passera pas par moi. Et vous en tant qu'homme, moi citoyen, la corruption ne passera pas par moi.
Ok, on essaie de répéter ça, Emma.
Moi citoyenne, la corruption ne passera pas par moi.
Moi citoyen, la corruption ne passera pas par moi.
Et moi citoyen, la corruption ne passera pas par moi.
Merci. Citoyenne, ivoirienne, que la corruption ne passe pas par nous.
Merci beaucoup à monsieur Marc Niaouré. Restez, mesdames et messieurs, donc continuez d'écouter Life Radio, c'est la radio comme tu l'entends.
Life Radio 107.7, écoutez-nous sur liferadio.ci et suivez toute notre actualité, infos, news, players et un max de tubes non-stop. Life Radio 107.7, comme tu l'entends.